Nous recevons Mathieu Latapie et Clémence Ménien. Vous êtes chercheur au CNRS et vous travaillez sur ce qu'on appelle les grands réseaux d'interaction. Alors, grands réseaux et interactions, est-ce que vous pourriez nous expliquer en quelques mots ce dont il s'agit ?
Alors, en quelques mots, c'est bien sûr très simple. L'idée, c'est que plutôt que de s'intéresser à des ensembles d'objets ou d'individus ou d'entités quelconques, on s'intéresse bien sûr aux individus, aux entités en question, mais on s'intéresse aussi beaucoup aux relations, et essentiellement aux relations qu'ils entretiennent et aux interactions qu'il y a entre ces objets. Donc, typiquement, si vous pensez à des gens, plutôt que s'intéresser à la taille qu'ils ont, au poids qu'ils pèsent, au métier qu'ils font, combien ils gagnent par mois ou des choses comme ça, on va s'intéresser plutôt aux relations qu'ils ont avec les autres, donc typiquement à avec qui ils travaillent, avec qui ils sont copains, avec qui ils couchent éventuellement.
Voilà un exemple qu'on avait abordé en préparant l'émission, ça n'était pas.
C'est vrai que c'est la oui, c'est un peu ça.
Voici au CNRS.
Exactement. Ça passe très bien pour les cours à l'université, ça passe très bien comme exemple. Je vois qu'il n'y a pas que là.
Oui, de la France Culture, vous voyez. Jean-Baptiste, oui.
Oui, un des exemples sur lesquels on avait discuté à l'émission, ça n'est pas qui couche avec qui, quoi que ça, on en discute tout le temps, mais plutôt qui téléphone à qui, qui téléphone à qui, qui téléphone à qui, qui téléphone à qui, qui téléphone à qui. Alors Clémence Ménien, est-ce que c'est ce genre de choses sur lequel vous travaillez?
Tout à fait, c'est le genre d'objet qu'on peut regarder. Donc effectivement, le réseau des appels téléphoniques est ce qu'on peut appeler un grand réseau d'interaction où on étudie non pas les personnes mais leurs relations. Le genre de choses qu'on va pouvoir être capable de regarder, c'est d'analyser cet ensemble d'appels téléphoniques afin d'être capable de le décrire et d'extraire l'information intéressante qui est dans cet objet.
Dans le réseau.
Mais pour en tirer des informations,
c'est-à-dire quel ordre
vous voyez le réseau téléphonique de quelqu'un, quelqu'un qui est à cette table par exemple, mais donc il faut que vous sachiez qui se cache derrière le numéro, entre guillemets, sans faire
pas forcément.
Il faut que vous sachiez, tiens, il appelle plutôt des hommes, plutôt des gens qui habitent le nord de la France, plutôt...
Plus ou moins.
Voilà, il faut qu'il y ait une identité derrière le numéro, en fait.
Bien sûr, plus on a d'informations sur les objets qui sont en relation, mieux c'est, plus on va pouvoir dire des choses riches. Mais il faut bien se rendre compte que dès qu'on a des grands ensembles de relations, on va pouvoir être capable de tout de suite donner de l'information sur des entités qu'on ne saura pas forcément identifier. Donc par exemple, dans un grand réseau de qui téléphone à qui, vous allez être capable de voir qu'il y a des groupes de gens qui téléphonent beaucoup entre eux, alors qu'ils téléphonent peu à d'autres groupes de gens qui eux-mêmes se téléphonent beaucoup entre eux. Donc ça, c'est typiquement ce qu'on appelle des communautés, donc des ensembles de gens fortement connectés entre eux et faiblement connectés à l'extérieur. Et ça, effectivement, après, si vous voulez l'utiliser pour faire quelque chose pour une application précise, comme par exemple le télémarketing, quand si vous voulez non mais ça peut être important, parce que la grande tendance dans le télémarketing, c'est pas tellement d'appeler tout le monde, enfin les gens commencent à se rendre compte depuis le temps que cette pratique a lieu, que c'est très bien d'appeler quelqu'un et d'arriver à lui vendre quelque chose, mais d'appeler quelqu'un et de l'embêter, c'est très mauvais pour l'image de l'entreprise aussi, et c'est pas quelque chose qu'ils veulent faire. Donc il y a aussi une
volonté. Vendeur de vitres sonorisées là vraiment.
Mais alors Mathieu Latapie, est-ce que vous n'avez pas peur que tous ces contrôles que vous êtes capable de faire sur les gens finissent par déboucher sur des problèmes, sur une capacité à surveiller plus importante?
Alors, c'est ça, c'est... oui, qui est sous-tendu, enfin c'est un système paranoïaque.
C'est très clair que dans ce genre de problématiques scientifiques, on se pose des questions éthiques très fortes, qu'il y a des grosses discussions. Je vous cache pas qu'il n'y a pas de solution universelle. On est typiquement dans une science appliquée, enfin avec des applications en tout cas, donc avec des dangers au niveau des abus des gens qui peuvent les appliquer. Donc il y a un contrôle des scientifiques et un contrôle au-delà.
Au niveau des applications, j'imagine que ce genre de choses doit notamment être recherché par des groupes comme la police, la gendarmerie. Vous travaillez avec ce genre de gens?
Le CNRS, tout à l'heure j'étais avec Voici, vous voyez que longue dérive. Donc le CNRS, objet de préemption de la police.
Alors déjà je voudrais juste dire qu'on parle pas au nom de tout le CNRS, mais on parle au nom propre. Donc juste sur la question de la police, en fait nous avons commencé à travailler sur un projet d'aide à la lutte contre la pédocriminalité sur internet, donc utiliser nos techniques d'analyse de grands réseaux pour être capable d'aider les policiers dans leur recherche de gens qui échangent des images à caractère pédophile sur internet, de façon à retrouver plus facilement les gros diffuseurs par rapport à des gens qui vont télécharger des images peut-être accidentellement, enfin d'être capable de mieux orienter leur recherche.
Merci. Tu vois, tu te souffres.
Mais est-ce qu'il y a quand même des utilisations qui sont peut-être plus légères, plus simples, plus peut-être plus ludiques que ce genre de grosses problématiques?
Bah tout à fait.
Donc,
tout à fait. Donc en effet, nos techniques permettent, donc je disais, d'extraire de l'information des réseaux, et cette information, elle peut servir à énormément de choses. Donc elle peut servir à faire de la surveillance, mais elle peut aussi servir à aider l'utilisateur à avoir accès plus facilement à plus d'informations et à être plus satisfait de certaines choses. Donc un exemple typique, par exemple, c'est l'outil Netflix qui permet aux utilisateurs...
Attendez, qu'est-ce que c'est Netflix, peut-être, déjà? Est-ce qu'un de vous deux peut expliquer aux auditeurs ce que c'est que Netflix?
Netflix, c'est une... Pour ce que j'en sais, je suis pas absolument sûr de ce que je vais dire, mais c'est une grosse entreprise américaine qui fait de la vente de DVD par Internet, et de la vente de films à la demande, en fait. Donc ils ont énormément de clients, et leurs clients, une fois qu'ils ont visionné un film, donnent une appréciation de 1 à 5, donc une note de 1 à 5 sur ce qu'ils ont pensé de ce film-là. Donc Netflix dispose d'une énorme base de données avec des centaines de millions de votes de leurs clients sur des films. Donc ça, nous, on voit comme un réseau, d'accord, un réseau dans lequel vous avez des clients et des films, et chaque client est relié par un lien à un certain nombre de films, les films qu'il a vus, et ce lien peut valoir de 1 à 5. Et ils utilisent ces données-là pour faire du conseil, c'est-à-dire que en fonction des films que vous avez vus et des notes que vous avez données et des notes des autres utilisateurs, des autres clients, eh bien, ils vont vous dire quel film vous êtes susceptible d'apprécier.
D'accord.
Et donc vous conseiller.
Moi, si je comprends, bien, vos outils permettent, donc on l'a vu, peut être un outil de surveillance, un outil de télémarketing, ou en tout cas à terme commercial. Est-ce que ça peut avoir aussi une utilité, tout simplement, en restant dans le sociologique, c'est-à-dire est-ce qu'on peut définir une personne par catégorie, en fait, d'affinité ou en tout cas de relation, c'est-à-dire définit des catégories de valeurs de tribu ou...
Tout à fait, exactement de la même manière que vous pouvez caractériser quelqu'un par sa taille, des caractéristiques physiques, des caractéristiques d'activité ou de salaire ou des choses comme ça. Vous pouvez caractériser quelqu'un par son profil relationnel. Donc il y a il y a des choses très très simples et des choses assez subtiles.
Par exemple,
dans les choses qu'on peut expliquer en quelques mots, vous avez typiquement des gens qui ont des relations avec un ensemble de gens qui ne mettent pas en contact. Donc des gens qui ont des relations avec des gens qui ne se connaissent pas entre eux. Et vous avez un comportement à l'opposé de gens qui mettent leurs relations en contact entre eux. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit très bien dans un réseau. Dans le premier, vous avez une espèce d'étoile. Vous avez la personne que vous regardez qui est en relation avec un certain nombre de gens qui se connaissent pas. Dans l'autre, vous avez une clique, ce qu'on appelle une clique, donc un ensemble de gens tous connectés entre eux, ils se connaissent tous entre eux. Et vous avez, bien sûr, des choses intermédiaires. Donc vous avez des gens qui gardent leur famille d'un côté et qui ont leur relation amicale d'un autre côté. Des gens qui ont leur relation professionnelle d'un côté, qui mélangent avec leurs amis mais pas avec leur famille. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez voir dans les réseaux.
Oui, mais ça, on s'en doutait bien, même sans faire toutes ces recherches.
Ah oui, bien sûr. En général, enfin, de toute façon, une grosse portion, je suis désolé, peut-être de vendre par certains, une grosse portion de l'activité scientifique consiste à confirmer des intuitions naturelles. Des fois, on a des surprises, et une chose importante aussi, c'est de le quantifier. C'est-à-dire qu'effectivement, on sait qu'il y a des choses, on sait qu'il y a des gens qui ont certains types de comportements, c'est assez naturel. Maintenant, est-ce qu'il y a une quantification de ça? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui fonctionnent plutôt en mettant pas leur cercle d'amis en relation? Et puis, est-ce qu'il y a une influence d'autres paramètres là-dessus? Par exemple, est-ce que ça peut dépendre de la catégorie socio-professionnelle? Est-ce que suivant notre milieu d'origine, on a plus tendance à connecter nos amis ou pas?
On peut commencer à savoir des choses comme ça.
Ce genre de choses, oui, tout à fait. C'est tout à fait le genre de choses que les sociologues font là-dessus.
Mais moi j'ai une question toute simple. Est-ce que ça marche? Écoutez, est-ce que ça marche? Parce qu'on parlait de Netflix justement, donc a lancé une initiative très récemment qui est de proposer $1 million et vous allez expliquer à qui.
Donc le but de Netflix, c'est qu'en fait ils sont très satisfaits de leur système qui permet donc de proposer des films à des utilisateurs en leur disant qu'ils vont les aimer. Ils trouvent que leur système a un taux de succès très important, c'est-à-dire que quand ils proposent un film à un utilisateur, très souvent cet utilisateur aime le film, et ils seraient curieux de savoir s'il est possible d'améliorer ce système. Donc en fait ils ont ouvert un grand concours où ils proposent d'offrir $1 million à la personne, au groupe de personnes qui arriveraient à améliorer suffisamment le système. Donc c'est eux qui ont fixé la barre, ils ont dit qu'il fallait qu'ils fassent 10% de mieux, donc après le calcul de performance est un petit peu compliqué, c'est pas négligeable, 10% de mieux, ils font déjà très bien. Et donc ils ont ouvert un concours qui n'a pas de date de fin fixée, je crois. En fait, ils sont assez persuadés que personne ne va y arriver.
Mais alors là, une question toute bête, mais vous êtes chercheur au CNRS, j'imagine que vous ne roulez pas sur l'or. Est-ce que avec des concours comme ça, $1 million,
moi,
des sociétés comme Google, vous arrivez encore à garder vos chercheurs dans vos centres de recherche autour de ça?
Je sais que c'est parce qu'on est sorti de la salle en fait.
Il faut bien se rendre compte. Je pense que Netflix est assez confiant sur le fait que ça ne marchera pas. C'est-à-dire que qu'ils ne gagneront, que personne ne gagnera. Je vous avoue qu'on a nous-mêmes réfléchi à l'idée de participer. Que j'ai un étudiant qui a participé, qui a d'ailleurs obtenu des résultats très intéressants et tout à fait honorables. J'en discutais avec lui il y a quelques jours. Il me disait, elle est un petit peu dépitée. C'est dur, j'ai arrêté. Bon, je pense que c'est quand même c'est 1 million de dollars qui n'est pas donné, disons, qu'il faut quand même aller chercher assez loin.